Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Le cinéma a fait de lui le traître dans un film qui retrace sa vie. Une vie de mafieux repenti. Mafieux, il l'était au sein de Casa Nostra. Repenti, il ne s'est jamais considéré comme cela. Pourtant, il a tout balancé. Je vous raconte le pentito qui a brisé l'omerta de la mafia, Tommaso Buscetta. Nous sommes le 15 juillet 1984 sur le tarmac de l'aéroport de Rome. C'est un homme en petite forme qui débarque entouré de deux policiers. Son nom, Tommaso Buscetta. L'homme arrive du Brésil où il a passé plus de 9 mois en prison avant son extradition vers l'Italie. Il est un peu pâle car il a tenté, au moment de son départ, de se suicider en avalant de la strychnine, ce qui en dit long sur le fait qu'il n'était pas pressé de rentrer dans son pays. Or, Tommaso Buscetta a survécu et il est bien obligé de fouler le sol italien qu'il avait fui 4 ans plus tôt lors d'une permission de sortie alors qu'il était incarcéré pour trafic de drogue. Retour donc en prison. Mais avant, un magistrat venu spécialement de Sicile tient à lui parler. C'est le juge Giovanni Falcone qui lutte depuis des années contre la mafia. Ça tombe bien, Tommaso Buscetta est un mafieux. Et les deux hommes se connaissent déjà. Falcone avait fait le voyage jusqu'au Brésil pour tenter, sans succès il faut bien l'avouer, de lui soutirer des informations. Mais cette fois-ci, les choses ont changé. Et ce jour-là, dans un bureau de la police romaine, Buscetta annonce « Je vais révéler tout ce que je sais ». Et des choses, il en sait beaucoup en effet. Né en 1928 dans un quartier pauvre de Palerme, en Sicile, Tommaso Buscetta s'oriente vite vers une carrière criminelle dans cette île régie depuis des années par des pouvoirs parallèles. Dans les années 1860, la Sicile rurale, tissée de réseaux d'entraide et d'obligeance, a vu émerger le système mafieux autour de la culture et de la vente des agrumes. Des citrons, on est bien vite passé à de vastes trafics de contrebande, puis de drogue, en plus du racket sur les commerces et des collusions avec les pouvoirs publics. Buscetta est devenu un agent haut placé dans les réseaux mafieux entre Sicile et États-Unis, où il s'installe dans les années 1960 sur fond de guerre des clans dans son île natale. Arrêté à New York pour trafic de drogue, il fuit au Brésil avant d'être extradé une première fois vers l'Italie. Lorsqu'il parvient à fuir à nouveau au Brésil en 1980, c'est pour échapper à la prison autant qu'à la deuxième guerre de la mafia qui fait rage pour le contrôle du juteux trafic international d'héroïne. De 1980 à 1983, Palerme se jonche littéralement de cadavres. Les mafieux règlent leurs comptes et s'en prennent à quiconque se met sur leur chemin, qu'il soit témoin, policier, magistrat ou préfet. La population est à bout, écœurée de nettoyer le sang des rues pendant que les autorités publiques passives en ont aussi sur les mains. Cette guerre, c'est le clan de Corleone qui la gagne, aux dépens de tous les autres, notamment celui de Tommaso Buscetta qui perd 2 de ses fils et 10 autres membres de sa famille, une véritable hécatombe. Alors, quitte à tout perdre, autant tout dire, et pour le juge, tout noter. De mi-juillet à début septembre 1984, du matin au soir, le juge Falcone écrit tout ce que Tommaso Buscetta lui raconte. Falcone et le pôle anti-mafia dont il fait partie sont déjà au courant de nombreux crimes grâce à de minutieuses enquêtes menées en Italie comme à l'international, mais ce que Buscetta révèle va bien plus loin. Il décrit précisément la structure hiérarchisée de Cosa Nostra, comme se nomme elle-même l'organisation mafieuse. Si l'on avait eu vent de cette appellation dès les années 60, Buscetta, en brisant l'omerta, la loi du silence, lui donne toute sa consistance. Des soldats du bas de l'échelle, aux parrains qui dirigent les familles, l'ordre est quasi militaire pour ces hommes dont l'honneur se joue sur quelques préceptes de dignité, de loyauté absolue et des rituels initiatiques teintés de magie et de religiosité. Au sommet de la pyramide, la cupola, commission suprême, réunit tous les chefs décisionnaires qui peuvent d'un geste commanditer un assassinat ou gérer leur trafic sans avoir à se salir les mains. Selon les mots mêmes du juge Falcone, Buscetta livre la clé de compréhension qui manquait. « J'ai collaboré avec Giovanni Falcone, dira plus tard Buscetta, parce qu'il est un homme d'honneur. » Une relation singulière se tisse en effet entre les deux hommes qui ont grandi dans les mêmes quartiers populeux et s'expriment avec les mêmes codes, bien que leur vision de l'honneur soit radicalement différente. Car attention, Buscetta ne se repent pas. Il est un homme d'honneur et le restera. En tout cas, c'est ce qu'il dit, ce qu'il affirme, ce qu'il croit. C'est le clan Corleone qui a trahi Cosa Nostra en en faisant une violente association de malfaiteurs, là où Bousquet a défendu une organisation bienfaitrice née, je cite, « pour défendre les plus faibles face aux abus des puissants ». Tommaso Buscetta n'est pas le premier de ceux que la presse nomme repentis. Les textes de loi parlent, eux, de collaborateurs de justice. Dans les années 70, un certain Leonardo Vitale, en pleine crise mystique, s'était rendu aux autorités en s'accusant de meurtre et en livrant des noms de mafieux, mais on ne l'avait pas cru. Deux semaines après sa sortie de prison, il avait mystérieusement disparu. Cette fois-ci, Falcone et ses collègues croient Buscetta et vont vérifier nombre d'informations pour étayer les accusations et lancer des centaines de mandats d'arrêt en vue du plus retentissant des procès. Le 10 février 1986, dans un bunker géant construit spécialement pour l'occasion près de la prison de Palerme, s'ouvre le maxi-processo. 474 prévenus, dont 119 en fuite, doivent répondre de leurs actes ou de leur appartenance à la mafia, désormais crime en tant que tel. Les audiences virent parfois à la farce tant les accusés multiplient les outrances pour enliser les débats. Mais lorsque le 3 avril 1986, Tommaso Buscetta pénètre dans le prétoire entouré d'une dizaine de policiers pour le protéger, tout le monde se tait. Certains mafieux espèrent encore qu'il reviendra sur ses dépositions. Ils seront déçus. Buscetta passe presque une semaine à la barre derrière des parois de verre blindées et réitère tout ce qu'il avait dit au juge Falcone. Après 1 an et 10 mois de procès, les verdicts tombent. 360 accusés sont condamnés pour un total de 2665 années de prison. Buscetta repart en Amérique où il bénéficie d'un programme de protection puisqu'il témoigne aussi au cours du procès de la Pizza Connection, réseau qui gère le trafic de drogue aux États-Unis. La mafia a pris un sérieux coup, mais beaucoup de condamnés seront libérés en appel aux grandes dames du juge Falcone, qui continue son combat jusqu'à ce qu'il soit tué dans un attentat à la bombe en mai 1992, tout comme son collègue le juge Borsellino 2 mois plus tard. L'Italie est atterrée. Et c'est cet événement qui pousse Buscetta à en dire encore plus, notamment sur les liens entre Cosa Nostra et les pouvoirs politiques. Il participe encore à de nombreux procès avant de terminer sa vie aux États-Unis sous une fausse identité. Tommaso Buscetta décède en 2000 à Miami en ayant pris le temps, dans l'un de ses derniers entretiens avec un journaliste, de critiquer la justice italienne qui, selon lui, comble de l'ironie, accorde trop d'importance à la parole des repentis.
Europe 1, historiquement vôtre.